Selon le rapport annuel du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, publié mercredi, le nombre d'exils forcés n'a jamais été aussi grand dans le monde, avec plus de 70 millions de déplacés. Et encore, ce nombre ne comprend pas tous les Vénézuéliens qui sont déjà près de 4 millions à avoir fui leur pays depuis 2015. Alors est-on au bord d'une nouvelle crise migratoire? Lors d'une conférence de presse à Genève, le Haut Commissaire à l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi, a parlé d'une crise de solidarité, plus qu'une crise migratoire. Une crise de solidarité qui toucherait notamment l'Europe, et il a pointé une politisation telle de la question migratoire que les gouvernements européens se retrouvent, je le cite, terrifiés à l'idée d'accueillir des réfugiés secourus en mer Méditerranée. Bonjour Francis Valla.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président d'honneur de l'ONG SOS Méditerranée, cette association créée en 2015 et qui est destinée à sauver des migrants en mer. Vous l'avez présidée pendant 3 ans, jusque très récemment. Je crois que c'est cette semaine que vous avez quitté votre poste de président. Ce discours de Filippo Grandi lors d'une conférence de presse à Genève, sachant que le 9 juin, le Haut Commissariat aux réfugiés avait déjà alerté sur le fait que si nous n'intervenons pas bientôt, il y aura une mer de sang. Vous le partagez, ce discours ?
Oui, enfin, je pense que c'est plus compliqué que ça, mais la tendance lourde du discours est évidente. Il y a une crise de solidarité, alors qui s'explique par des peurs légitimes et d'autres qui sont et des préoccupations en même temps qui sont totalement fantasmées. Mais en tant que SOS Méditerranée, nous sommes, et je tiens à le dire en introduction, de façon à bien poser les choses pour le reste de mes réponses, nous sommes concentrés sur une chose absolument essentielle, qui est que quelles que soient les préoccupations légitimes que peuvent poser les migrations, on va en revenir, je ne veux pas du tout échapper à la question, il y a une chose en tout cas qui est certaine pour nous tous, qui sommes très différents, très divers au sein de SOS Méditerranée, ou pour nos 50 000 donateurs, alors que nous n'avons 4 ans d'existence et qui sont eux-mêmes très divers, il y a de la droite, de la gauche, du paysan, de l'ouvrier, du chef d'entreprise, etc., etc. Il y a une chose simplement qui nous unit, c'est que quelle que soit la complexité du problème, le sauvetage, lui, est une chose simple, et la solution ne peut pas être que les gens meurent. On ne peut pas on va approcher, depuis le début de la crise migratoire, près de 60 000 cadavres, et encore, il y en a certainement plus que ça, parce que les moyens d'identification sont limités, près des côtes de l'Europe, en Méditerranée. Nous sommes pour la vie, nous aimons la Méditerranée, je comprends les gens qui aiment y nager, y pêcher, mais on peut pas, si on regarde ailleurs, véritablement, on met en cause... Hein, puisque qui pense immigration pense mise en cause de l'identité de chacune des zones, qui est une zone d'accueil ou de non-accueil, d'ailleurs, où vont les migrants. On met en cause notre identité forgée de valeurs au cours des siècles que nous avons appris à partager, après des guerres, des échanges de toute nature, etc., mais qui sont notre fond commun, hein, qu'on les appelle des valeurs humanitaires, des valeurs occidentales, des valeurs européennes, des valeurs chrétiennes même, enfin sur un plan historique, etc., si nous renonçons à ces valeurs qui sont notre fond commun, c'est là que notre identité est menacée. Mais je reviens, je ne veux pas être trop long, je le suis déjà beaucoup, en réponse à votre question. Il y a une chose qui est simple, et si on ne peut pas dire que la solution est que ces gens coulent parce que c'est notre âme qui coule avec. Donc ça pose une question globale, c'est pas simplement chez nous où on a la pression de la Méditerranée au sud, c'est vrai partout dans le monde où effectivement le défi de notre siècle, tout le monde le sait, sera celui des migrations, qui nécessite donc d'avoir une stratégie de réponse.
Pourquoi dites-vous, Francis Valla, que c'est plus compliqué, malgré tout, comme réponse ?
Ben c'est plus compliqué parce qu'il y a un mélange, excusez-moi de pas avoir été clair, il y a un mélange de raisons rationnelles qui sont les causes des migrations, les guerres, l'oppression, les simili-guerres, les dictatures sanglantes, l'absence de démocratie, la climatologie, etc., qui sont des causes absolument objectives. Et puis il y a une sorte d'hypertrophier ces problèmes en n'ayant pas des stratégies, en ayant uniquement celle de la non-action par peur véritablement de faire face au sujet à cause des populismes, etc. Donc on peut en parler longtemps, et tout en ne niant pas à aucun moment la complexité que ça peut avoir pour les États. Simplement, leur problème, effectivement, c'est de s'en occuper.
Ce qu'on ne sait pas bien, et ce qu'on sait souvent très peu d'ailleurs, c'est que 80%, je crois, des migrations sont des migrations internes, c'est-à-dire au sein d'un d'un même pays, c'est, ce sont des déplacements au sein de même pays. Donc ça fait très très peu de migration en mer, de gens qui partent, qui fuient leur pays pour aller risquer leur vie en mer pour aller dans un autre pays. C'est très 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 peu de gens. Or, on a le sentiment, mais peut-être là, la responsabilité politique est importante. On a aujourd'hui, depuis peut-être 4 ans en effet, le sentiment qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Comment on répond à ce discours-là, vous qui de fait, à SOS Méditerranée, en avez quand même sauvé beaucoup, puisque vous en avez sauvé 30 000
oui. Alors,
de la noyade.
Vous citez,
donc c'est ce hiatus entre la perception et la réalité.
70 millions pour le monde entier, ce qui est un record, et ce qui est à la fois, évidemment, un chiffre très important en valeur absolue et tout petit en valeur relative. Hein. On est donc
1%
de la population façon, mondiale. Aujourd'hui, les migrations qui traversent la Méditerranée, en particulier l'axe central sur lequel nous sommes, ont énormément diminué dans les dernières années, mais c'est vrai que le phénomène est un phénomène global qui est très important et qui sera de toute façon celui du 21e siècle. Et ce qui me frappe beaucoup, je faisais tout à l'heure allusion à nos valeurs, et je pense que véritablement on y est très attaché, mais il y a une sorte de gêne sur le sujet de la part de l'opinion publique qui elle-même ne sait pas que faire, parce que en face d'elle, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de stratégie. Et c'est très anxiogène. Comme on n'ose pas parler du sujet, on laisse évidemment circuler n'importe quelle vérité ou contre-vérité. C'est plus la vérité qui compte. C'est le sentiment qu'on en a et qui est encouragé par une forme de lâcheté à ne pas aborder le problème de fond. Aujourd'hui, je crois qu'un des principales adversaires pour nous, pour une association comme SOS Méditerranée qui fait tout sauf de la politique, qui ne se reconnaît ni compétente ni légitime pour traiter l'après ou l'avant, qui est exclusivement dans le sauvetage, je vais vous dire, c'est très simple, nous sommes un exemple parfait, parce que nous sommes créés en 2015, donc j'ai commencé à les aider fin 2015 sur le plan maritime, ils m'ont demandé d'être président en 2016 au moment où arrivait l'Aquarius. Les premiers 18 mois, nous étions mais félicités par tout le monde. Nous n'avons cessé de recevoir des prix, le prix Fouet de Boigny, le prix de l'UNESCO, de la presse franco-allemande, du citoyen européen. Et puis le jour où l'Italie, qu'on peut comprendre, qui a voté à l'extrême droite, et nous on le disait déjà depuis 2 ans, mais attention, il faut pas laisser l'Italie seule, etc., a voté contre le manque de solidarité de l'Europe, beaucoup plus contre les réfugiés, mais a mis l'Europe au pied du mur. Et là, à partir de ce moment-là, et parce que les solutions sont difficiles à trouver, la nouvelle odyssée du Sea-Watch le prouve, on en dira peut-être un mot, à partir de ce moment-là, nous sommes devenus, écoutez, le mot est très trivial, mais des emmerdeurs, dès lors, ça n'est plus du tout la vérité qui comptait, donc c'est... Voilà, on est dans ce genre de situation et qui fait qu'en France, qui est quand même un pays généreux, je sais par exemple, depuis des années, même si ça a baissé un petit peu, la France est un des pays les plus généreux du monde au niveau de la vie associative, au niveau même des transferts. Quand il y a une crise, la France, les Français donnent, etc. Les Français sont généreux. Et dans ce sondage dont vous parlez, enfin c'est pas un sondage, pardon, dans cette étude, on voit, j'ai vu avec effarement, parce que c'est pas vrai, c'est pas notre pays, moi je suis pas, vous savez, on fait pas de politique.
Il y a l'étude à laquelle vous faites référence, Francis, voilà, c'est un sondage effectivement Ipsos hein, qui a été publié à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés un jeudi, qui montre que en gros 1%, 1 sur 2, une personne sur 2, je vais y arriver, de la population mondiale ne croit pas que les étrangers qui viennent dans leur propre pays sont des vrais réfugiés, en quelque sorte ils pensent que ce sont des migrants qui économiques, qui masquent leur vraie situation, et donc et là-dedans les Français sont les plus craintifs, sont les plus pessimistes, ils pensent que effectivement on nous cache tout par rapport à la situation
complotiste de... même voilà. Complotiste, et c'est évidemment savamment entretenu, bon là je suis obligé de la qualifier par l'extrême droite, mais c'est effarant, non seulement d'après ce que j'ai vu de ce sondage les Français se méfient beaucoup, pensent que la plupart des réfugiés qui invoquent le droit d'asile n'y ont pas droit, alors que c'est parfaitement réglementé, clair et transparent. Sur les 30 000 personnes que nous sauvons, vous avez grosso modo plusieurs types de naufragés, vous avez les gens qui se trouvaient en Libye avec un statut, le gros pays d'immigration africain, la Libye, avec un statut tout à fait légal, un salaire, des familles, etc., et qui se sont trouvés piégés quand Kadhafi a été fichu en l'air, Et alors je fais pas de politique. J'étais bien content qu'on botte les fesses de Kadhafi, mais il aurait peut-être fallu songer à la suite. Se sont retrouvés piégés avec pas d'autre solution que de fuir le pays, puisque ce pays non seulement est à feu et à sang, mais est soumis à l'esclavage, à la prostitution. Toutes les femmes que nous souvent toutes sont prostituées. La plupart des hommes sont torturés, etc. Vous avez un deuxième contingent qui sont les pays en situation de guerre ou de quasi-guerre. Je parle la Syrie, l'Éthiopie, l'Érythrée, jusqu'à il y a peu le nord du Nigeria, le nord du Niger avec Boko Haram et ses mouvements djihadistes dont le grand sport est quand même de temps en temps, une fois tous les deux mois, d'aller piquer une classe de filles de troisième pour en faire des femmes des guerriers, etc. Et puis vous avez enfin effectivement des migrants qui sont des migrants économiques. Et c'est pas mais cette réalité même, ce sondage montre qu'elle est totalement méconnue. Je suis pas en train de militer, je suis en train de dire que les Français réagissent.
Pourquoi vous défendez autant Francis Vallat de ne pas faire de politique? Vous dites, je ne fais pas de politique.
On fait de la politique, bien entendu, notre geste.
Ça n'est que de la politique, ce que vous faites.
Notre action est politique. Mais je me défends pas. Je dis simplement que je ne veux pas que cette action, qui est une action humanitaire au sens fort du terme, moi, vous le savez, je viens du milieu économique, pas de celui des ONG, etc. C'est une action humanitaire au sens fort du terme, soit assimilée, soit traitée de manière politicienne.
Mais vous trouvez que les responsables politiques aujourd'hui, quels qu'ils soient d'ailleurs, de gauche comme de droite, d'extrême gauche comme d'extrême droite, attisent les peurs et les fantasmes? Voilà, évidemment l'extrême droite peut-être plus.
C'est de l'autre côté, mais simplifié. Surtout, comme je vous le disais, on est hors a priori politique. C'est plus compliqué. Je dis par exemple pour les gouvernants que l'Italie fait chanter aujourd'hui se couper de l'Italie, alors que les pays de l'Union européenne de l'Est eux-mêmes sont anti-européens, enfin sont dans des positions.
Les situations sont extrêmement variées malgré tout.
Mais il y a un point commun entre ce que j'appellerais, en me référant à l'ancien monde, les partis de gouvernement, qui est la peur à cause des extrêmes. Eux-mêmes, le poids de la non-vérité est tellement fort qu'ils hésitent même au nom de la vérité. Mais vous aussi, les médias, je vais vous donner, pas vous ici, la preuve, vous me recevez, mais il m'est arrivé de me trouver dans des émissions de télévision où sénateurs, je me souviens en particulier, mais enfin à plusieurs reprises, des hommes politiques, lorsque je disais, mais nous n'allons pas chercher les réfugiés en Libye, nous patrouillons à 50 km des côtes, ce que vous dites est faux. Un exemple comme celui-là, où la théorie de l'appel d'air, et où le type m'interrompt en me disant, monsieur, vous mentez, et je me tourne vers le média dans lequel j'étais en disant, mais monsieur, s'il vous plaît, c'est facile de suivre l'Aquarius depuis qu'il est parti, on sait où il est, qu'il n'a jamais été à moins de 50 km des côtes. Et à ce moment-là, le journaliste me répond, messieurs, moi je ne prends pas parti. Vous comprenez,
il y a les contre-vérités, voire les mensonges, la peur, Francis Vallat, et puis l'agitation électorale. C'est le mot même qu'a utilisé Philippe Grandi justement dans son discours. L'agitation continue, puisque hier et avant-hier, les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis à Bruxelles pour un conseil européen, pour s'entendre alors sur une personnalité apte à prendre les rênes de la Commission européenne à la place de Jean-Claude Juncker. Il était normalement question, il devait être question de la politique migratoire, justement d'un axe, d'une stratégie, puisque la politique migratoire doit être à chaque fois à l'ordre du jour de ces conseils européens. Il n'en a guère été question. Ça passe après l'agitation électorale.
Absolument, vous avez raison de poser cette question. Je vais vous dire pourquoi je suis vraiment inquiet à court terme et relativement optimiste à moyen terme. Je suis inquiet à court terme parce que j'ai rendu visite, par exemple, pendant plus de 2 heures à sa demande. À la tête de liste de les hommes politiques qui nous demandent de les rencontrer. Nous, on cherche pas mieux que de les voir pour leur dire ce qu'on pense et puis leur dire, ben, bougez-vous, c'est ça qu'on veut dire. Avec la tête de liste des responsables à l'REM. Qui, grosso modo, on était sur la même longueur d'onde, mais alors ça c'est très inquiétant, mais disant, mais je vois pas comment faire. Et ça c'est tout simplement parce que c'est un tel, j'étais trivial une fois, ben je le serai une deuxième fois, c'est un tel bâton merdeux qui savent pas comment le prendre et ils ont peur de prendre des coups, donc ils laissent le terrain aux extrêmes et là encore aux fake news, etc. etc. Et ce qui évidemment nous nuit et me fait passer pour un bradeur de l'Europe, etc. Et cette situation, on pouvait penser que ça serait le contraire avec la période électorale, comme ça allait être au centre du débat, puisqu'en fait c'est au centre des préoccupations. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'est l'inquiétude à court terme. Bon. Et qui est alimenté par le fait que vous n'avez pas, par exemple en Europe, c'est absolument invraisemblable, je suis allé à Bruxelles 10 fois, un groupe de travail transversal, transversale, c'est-à-dire qui engroupe tout, et qui est pour mission de donner même des idées aux politiques. C'est leur travail de prendre des décisions bonnes ou mauvaises.
Et l'optimisme à court terme.
Et l'optimisme, pourquoi? Parce que, oui, je suis un peu long, ce que vivent les États aujourd'hui eux-mêmes face aux crises successives, puisqu'on est au coup par coup, le Sea-Watch aujourd'hui, hier c'était l'Aquarius ou d'autres bateaux, etc., est très difficile à vivre pour eux. Et ils trouvent des solutions, mais au coup par coup, vous avez 5-6 pays, toujours les mêmes, donc, mais qui sont véritablement un peu isolés au sein de l'Union européenne, qui pour l'instant n'en sont qu'au coup par coup. Mais c'est tellement pénible qu'ils n'ont pas d'autre solution pour eux-mêmes que de trouver une solution pérenne pour ce sauvetage que nous demandons depuis des années.
Restez avec nous, Francis Valla. Il est 8h32, on va vous retrouver juste après la revue de presse de Natacha Triou. Vous écoutez France Culture.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Bourré.
Cher Natacha, oui, ça me va très bien, Francis Valla. Cher Natacha Triou, bonjour.
Bonjour Caroline.
À la une ce matin, l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis.
Le Parisien aujourd'hui en France pose une question en grosses lettres blanches sur fond noir. Iran, États-Unis, faut-il avoir peur ? Téhéran a détruit un drone américain. En réponse, jeudi, Donald Trump a lancé des frappes contre l'Iran et les stoppa à la dernière minute. Le journal analyse la posture présidentielle. Il rappelle qu'il est en pleine campagne pour 2020. Il montre qu'il est fort en mettant Téhéran en pression maximale, puis il relâche la pression pour montrer qu'il est responsable. Le Figaro va aussi dans ce sens. Donald Trump cultive sa légende de chef suprême. Dans l'édito de Patrick Saint-Paul, on peut lire de la crainte. Valse hésitation, bluff ou avertissement, peu importe. Sans retour à la diplomatie, la spirale menant à une confrontation militaire est déjà programmée. Dans l'Alsace, Laurent Baudin y voit, lui, les prémices d'un conflit international. Il écrit « Il ne s'agit pas d'un simple désaccord entre États. En cas d'usage des armes, c'est un affrontement entre blocs qui se profile. »
En première page du journal Le Monde, un entretien assez long de 2 pages avec le chanteur Chico Buarque, chanteur brésilien. Un entretien intitulé « Une culture de la haine se répand au Brésil ».
Chico Buarque est un emblème de la musique brésilienne et aussi icône de résistance lors de la dictature militaire. Dans cet entretien, c'est un entretien assez fort, qui est parfois révolté, parfois désabusé. Et on apprend voilà, que cet artiste vient de demander un visa de longue durée en France, à l'instar de l'intelligentsia brésilienne qui quitte le pays. Il décrit un gouvernement schizophrénique, un ministre de l'environnement contre l'environnement ou encore un ministre de l'éducation qui assassine l'éducation. Quant à la culture et à l'opposition, certes, il n'y a pas de persécution policière comme en 1969, mais il l'affirme. Aujourd'hui, les artistes et les acteurs de la culture au Brésil ne sont ni bienvenus ni bien vus. Contre la gauche en général, les gays, les minorités, les femmes, des menaces existent. À la question « Comment qualifier le pouvoir en place ?», il répond « On peut vraisemblablement dire qu'il est néo-fasciste parce qu'il partage beaucoup de pratiques avec les régimes autoritaires de droite. »
Et puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment l'été, Natacha, plusieurs publications nous invitent au voyage.
On commence avec un voyage littéraire avec le supplément du Monde ce week-end, les 100 romans du Monde. Comme pour mieux préparer nos valises, le journal est allé chercher dans ses archives, dans 75 années de critiques littéraires tout de même, pour en extraire la crème de la crème, 100 romans, de 1940 à 2018. Les revues Longcourt et Zadig, elles, nous invitent au voyage et surtout à renouer avec la nature. Toutes les deux, elles font le constat d'un même paradoxe. Nous aimons la nature pendant les vacances, mais elle nous indiffère le reste du temps. C'est ce qu'écrit Éric Fotorino dans son édito pour Zadig. Dans ce numéro, on part donc en France, un peu partout. On apprend que 8 millions de Français aimeraient quitter la ville pour se mettre au vert. On les appelle les rurbains, des urbains qui rêvent d'une vie rurale. Isabelle Autissier, la présidente de WWF, est elle aussi en interview dans ses pages. Elle revient sur notre relation au monde naturel. À ses yeux, nous sommes à un tournant. Cette bataille intellectuelle pour la défense du vivant n'est pas encore gagnée, mais on avance.
Et dans la revue Longcourt ?
Dans la revue Longcourt, ce qui avance, c'est la déforestation. Ce nouveau numéro s'intéresse aux forêts primaires. On y trouve des récits de voyage dans les jungles tropicales de l'Amérique centrale ou dans des forêts vierges du Congo. On y lit aussi 2 enquêtes. Triste Tropique et SOS Amazonie. Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent. Un chiffre qui risque de s'aggraver avec la nouvelle politique du Brésil. Autre responsable, l'Europe. L'Europe est le continent qui génère le plus de déforestation importée. Alors pourquoi la forêt continue d'être sous-estimée et maltraitée? Selon l'écologue Plinociste, dans notre modèle économique qui résonne à court terme, nous n'avons pas réussi à donner une valeur à la forêt. Peut-être aussi, pour reprendre les mots de Richard Powers, prix Pulitzer 2019 qui aurait pu faire partie de la sélection du Monde. Peut-être aussi sommes-nous aveugles aux arbres, car nous ne voyons que les choses qui nous ressemblent.
Merci Natacha pour cette revue de presse et rendez-vous dans une dizaine de minutes pour l'idée culture. Notre invité ce matin est un homme de mer, c'est comme cela qu'il se définit en tout cas. Francis Valla, président d'honneur de l'association SOS Méditerranée destinée à sauver les migrants en mer. Vous évoquiez, Francis Valla, la situation de ce navire Sea-Watch, navire allemand humanitaire qui est toujours en attente d'accoster sur l'île italienne de Lampedusa. 43 migrants sont à bord. Le ministre Matteo Salvini refuse de donner son accord pour un débarquement. Et c'est l'occasion pour moi de vous demander où en est SOS Méditerranée, puisque SOS Méditerranée, son bateau, l'Aquarius, a été immobilisé en décembre dernier pour des raisons administratives et judiciaires. Enfin, vous en êtes où?
À partir d'octobre-novembre, il est rendu le 31 décembre à son armateur, à la suite Bon, on va pas rentrer, c'est le passé, mais...
Non, justement, aujourd'hui, comment ça se passe? C'est quoi la situation?
Pression, non, mais enfin, c'est quand même... Ça illustre la situation, c'est-à-dire que nous respectons absolument le droit. Nous sommes certainement le navire d'ONG. Enfin, c'est pas gentil pour les autres, mais en tout cas, l'un des plus respecté pour son professionnalisme par toutes les autorités maritimes, il a quand même fallu s'en séparer parce que, du fait de pression politique, donc je le dis au passage sur le pavillon et sur le reste. Alors justement, face à ça, et parce que quelque part, et bien malgré nous, nous sommes devenus aussi bien SOS Méditerranée que l'Aquarius symbolique, la cible principale, à un moment donné en tout cas, du gouvernement italien, on fait très attention. Nous avons cherché un nouveau bateau, nous l'avons trouvé, il faut le modifier, vous savez qu'il faut qu'il y ait un petit hôpital à bord. Dans l'intervalle, on a travaillé comme des fous pour avoir l'argent qui permette de repartir et de modifier le bateau, parce que tout ça est très compliqué, très long, très cher, avec aussi les questions de pavillon, etc. On est très très actifs, on organise 500 événements par an, hein. Vous imaginez, on a 500 bénévoles, hein, 30 permanents, 500 événements par an, c'est-à-dire plus d'un par jour, ça peut être des concerts de rock, de classique.
Demain, il y a des courses, par exemple. Il y en a une à Lyon, il y en a une autre à Paris, en soutien à l'association, par exemple.
Oui, mais tout le temps, je vous dis, plus d'un par jour. Et on est à l'heure actuelle, donc, de mettre la dernière main à nos préparatifs, et on va repartir en mer.
En mars, l'Union européenne a suspendu les interventions d'ailleurs de l'opération Sophia, qui visait principalement à lutter contre le trafic illégal par des moyens navals. Est-ce que vous diriez, Francis Valla, qu'on assiste à une restriction du droit maritime?
Ah oui, certainement. Enfin, le droit maritime existe toujours, mais on est là. Vous parliez tout à l'heure de schizophrénie pour le Brésil. L'Europe est totalement schizophrène. Et ça ne doit pas être d'ailleurs toujours facile à vivre pour les gouvernements. C'est pour ça que je pense que leur intérêt, l'intérêt de tous, c'est de finir par dégager une position claire. Mais il n'y a aucun doute, parce que le droit maritime, il existe toujours. Nous sommes dans des États qui sont des États de droit. Ce droit maritime a toujours été respecté. Et aujourd'hui, en Méditerranée centrale, on est dans une zone de non-droit absolu. Non seulement la non-assistance à personne en danger, l'obligation de sauver, d'aller dans un port sûr, le port sûr le plus proche. Tout ça n'est plus respecté du coup. La fermeture des ports, par exemple, par un pays, c'est quelque chose qui n'existe pas en droit. On n'a pas le droit de le faire. Bon, mais si un gouvernement dit « je ne veux pas que vous rentriez dans les ports », bon, etc. Ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est que ce non-respect du droit est connu de la part d'États de droit, mais qui sont tétanisés par les peurs dont on parlait tout à l'heure, et aussi par le chantage que leur fait l'Italie en permanence. On dit, grosso modo, je caricature, mais il ne faut pas que l'Union européenne explose si l'Italie, elle se trouve très très mal. Donc voilà. Mais oui, on est absolument, c'est très clair, le droit n'est plus respecté. Et notre seul bouclier à nous, c'est la raison pour laquelle, alors qu'on gêne tellement, je peux venir ici et malgré tout je bénéficie encore du respect. À chaque fois que je rencontre un responsable, il me dit, vous savez, on vous respecte beaucoup ce que vous faites. Pourquoi? Parce que précisément, on a un bouclier qui est le droit. Personne ne peut nous accuser d'être, sauf à un moment donné, comme vous savez, il y a eu une dérive il y a quelques semaines, disant que nous étions complices des criminels. Enfin, je faisais.
Oh bah ça fait longtemps que ça dure.
Les
ça.
Calomnies.
Vous faites le jeu des passeurs. Bah
c'est la deuxième phase dont je parlais tout à l'heure, après que les ports italiens étaient interdits.
Quand même, c'est relayé par un certain nombre de responsables politiques, Francis Valla, mais c'est cru aussi par un certain nombre de personnes. Vous répondez à ça, à ceux qui vous accusent de jouer le jeu des passeurs, d'encourager les traversées en mer? Qu'est-ce que vous dites?
Le sondage les sondages, le sondage dont vous parliez tout à l'heure, le montre très bien, et c'est ça qui est absolument effarant, alors que je mets au défi n'importe qui de dire que nous ne parlons pas vrai, alors que nous avons en face de nous qui mentent. C'est absolument ahurissant.
Les autres disent la même chose.
Par exemple, la théorie de l'appel d'air, vous y avez allusion. Alors, il y a plein de mensonges. Que nous ne sommes pas transparents financièrement, alors que nous sommes transparents à l'euro près. Que nous ne reportons pas aux autorités, alors que nous n'agissons jamais. Après nous être mis sous la houlette des autorités sur leurs instructions et avec leur information, que nous sommes à 50 km des côtes. L'appel d'air, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais si vous voulez, l'appel d'air, c'est la théorie selon laquelle il n'y a pas de bateaux parce qu'il y a des réfugiés, mais il y a des réfugiés parce qu'il y a des bateaux. Bon, aujourd'hui d'ailleurs, qui est battu en Bresse parce qu'il n'y a pas de bateau, il y a le Sea-Watch là, qui tourne, etc. Et vous avez des morts absolument tous les jours, alors qu'il y a...
On dit même que le risque de naufrage de migrants en Méditerranée est plus élevé que jamais en raison du manque de navires de sauvetage.
Et
1245 morts en Méditerranée depuis juin 2018, 597 rien qu'entre janvier.
Et oui, parce que ces gens fuient un enfer, on n'allait pas à la recherche d'un Eldorado, etc. Donc même sans bateau, ils partent. Ce qui tue déjà en soi la théorie de l'appel d'air, dont il avait été démontré, je terminerai là-dessus, deux points. L'Italie généreuse, selon sa tradition, en 2014, avait monté une opération qui s'appelait Mare Nostrum en mettant des navires d'État. Hein, militaires et gardes-côtes, etc., avaient sauvé 150 000 personnes, et puis sous pression plus ou moins honteuse de l'Europe au nom de la théorie d'appel d'air, elle a arrêté. À ce moment-là, ce qu'on a vu, c'est quand même intéressant, c'est une preuve historique majeure. Dans les mois qui suivaient, les flux continuaient d'augmenter et le nombre de morts explosait. Ce qui se passe aussi en ce moment. Et ce qu'il prouve aussi, c'est que à bord de notre bateau, de nos 30 000 réfugiés, on a une certaine proportion d'enfants, évidemment, de mineurs, 80% sont sans leurs parents. Et ça, c'est aussi ce que ça démontre, si vous voulez, tout simplement, pourquoi ils sont sans leurs parents, parce que leur mère prostituée ou leur père torturé, etc., je caricature, à 1 € par jour, selon le passeur, un passage ça coûte 800, 1000 ou 1500 euros, ils ont toutes les chances de mourir ou de souffrir terriblement là où ils sont, donc quand ils arrivent péniblement à payer un passage, ils mettent leur enfant dans le bateau, au péril de sa vie, mais en sachant au moins que lui a une chance de s'en sortir. Donc l'appel d'air à côté de tout ça, c'est une mauvaise foi absolue. Le problème, c'est que c'est une théorie qui a toutes les apparences du bon sens, mais elle est extraordinairement pernicieuse, et les extrêmes s'en servent.
Francis Valla, l'association SOS Méditerranée que vous avez présidée jusqu'à il y a très très récemment, sauve des migrants en mer, mais elle les suit aussi un peu à leur arrivée sur Terre. Donc est-ce que vous savez ce que les migrants que vous avez sauvés, 30 000 hein, en 3-4 ans, sont devenus, ceux qui ont été sauvés par l'Aquarius?
Alors SOS Méditerranée, très très marqué par l'esprit de mer, mon successeur d'ailleurs qui est un homme remarquable, vient aussi du monde maritime, contrairement à ce que vous dites, ne s'occupe pas de la suite, il n'a pas la compétence et la légitimité, vous avez Terre d'Asile, ATD Quart-Monde, etc. Mais évidemment, a du cœur quand même, donc a cœur de savoir un petit peu
ce qu'ils deviennent. Une fois débarqués.
Mais on ne le sait, en fait, on ne le sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que vous en avez, je ne sais pas si c'est l'idée que vous avez, mais de dire il y a probablement une partie de ces gens qui échouent à Calais, ou etc. C'est évidemment, je n'en sais rien, mais c'est sûrement vrai. Vous en avez aussi toute une partie... dont on ne parle pas, évidemment, on ne parle pas de ce qui va bien, etc., pour lesquels ça se passe bien. Nous, si vous voulez, notre préoccupation, je suis désolé d'être insuffisant là pour vous répondre et de vous décevoir probablement, notre préoccupation, c'est de pouvoir les amener dans un endroit où nous sommes sûrs, ce que faisait l'Italie très bien d'ailleurs, hein, par une combinaison de l'action des autorités et des associations qu'elle coordonnait, c'est que les gens, où ils arrivent, soient traités avec dignité, sur le plan physique, sur le plan mental, et que leurs droits soient traités.
Vous parlez de droit. Dernière question avant d'entrer dans le dernier quart d'heure du matin du samedi. Francis Valla, deux avocats et des ONG demandent à la procureure de la Cour pénale internationale de mener une enquête sur les politiques migratoires de l'Union européenne. Et selon eux, ces politiques auraient conduit à des crimes contre l'humanité, contre des milliers de migrants en mer Méditerranée. Est-ce que vous soutenez une telle action?
Alors écoutez, je suis très attaqué parce que je ne la soutiens pas. Et à titre personnel, je ne la soutiens pas du tout. Je pense que les mots ont leur sens. Ce qui se passe est criminel avec les migrants. Mais il faut faire très attention. Notre droit repose sur la bonne qualification des délits ou des crimes. Le crime contre l'humanité, on ne peut pas mettre l'abjection. Alors je ne veux pas recommencer les polémiques de Christine Angot ou quoi que ce soit. Mais le crime contre l'humanité, c'est une chose précise. C'est l'assassinat systématique, c'est le génocide. Je fais suffisamment, j'ai fait SOS Mitterrand et de succession claire et ferme sur le comportement criminel qu'on finit par avoir ou qui menace l'âme même de notre Europe pour dire ne mélangeons pas avec les crimes contre l'humanité parce que c'est pas bien. C'est pas la même chose et c'est même dangereux. Je suis pas sûr que ça serve notre combat.
Alors on a commencé cet entretien par la question de la politisation de la question migratoire en Europe. Sachez qu'Hervé Gardette, tout à l'heure, à midi, dans Politique, il reviendra avec son invité Christophe Bertossi, qui est le directeur du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI. Et demain, dimanche et après, décidément c'est un week-end dédié aux réfugiés, puisque demain, dans dimanche et après, à 18h, Julie Gacon abordera, elle, la question de la sous-traitance de la politique migratoire en Afrique. L'Europe a-t-elle les mains propres? C'est la question qu'elle posera. Et puis les Parisiens peuvent aller voir la fresque monumentale de l'artiste Seipé, installée depuis quelques jours. C'est une œuvre de 15 000 mètres carrés qui s'étend sur toute la longueur du Champ de Mars.
Magnifique.
Qui représente une chaîne humaine de mains qu'on peut voir depuis la Tour Eiffel, il paraît. Et ça, c'est en hommage à votre association SOS Méditerranée. Vous l'avez vu?
Non seulement je l'ai vu, je suis allé à l'inauguration, je connais très bien l'artiste qui est un garçon formidable, et c'est pas simplement deux mains qui serrent, c'est le geste du sauvetage, elle se sert d'une manière, c'est le geste du sauveteur qui tire de l'eau la femme, l'enfant en train de se noyer, ou l'homme en train de se noyer.